Chapitre 13. Comment les premiers adventistes qui observèrent le sabbat acceptèrent Ellen G. White comme un véritable prophète. Théodore N. Lefteroff. La position des adventistes du septième jour au sujet du don de prophétie d'Ellen White est l'un des sujets les plus controversés au sein de l'adventisme depuis la création du mouvement. Comme un grand nombre de chrétiens protestants, les adventistes croient à la continuité des dons spirituels. Cependant, ils se distinguent des courants majoritaires du protestantisme dans la mesure où ils considèrent que le don de prophétie se manifesta en cette ère moderne en la personne d'Ellen Gould Harmon, White, qui contribua à la création de l'Église adventiste. Les premiers adventistes sabbatistes avaient la conviction qu'Ellen G. White possédait véritablement le don de prophétie, et ils défendirent son ministère prophétique. Ainsi, le don de prophétie devint l'une de leurs doctrines caractéristiques et fut intégré à leur système de croyances théologiques. Mais de quelle façon les premiers adventistes qui observaient le sabbat acquirent-ils la conviction que le ministère prophétique d'Ellen White était authentique? Ce chapitre propose une brève présentation historique du processus par lequel les adventistes sabbatistes justifièrent et acceptèrent le don de prophétie. Nous nous contenterons d'étudier la période allant de 1844 à 1872, une période critique au cours de laquelle ils durent prendre position concernant l'appel prophétique d'Ellen White, formuler des arguments bibliques et pragmatiques concernant la doctrine du don de prophétie et les intégrer dans leurs croyances fondamentales. La première partie de ce chapitre concerne le contexte ainsi que l'attitude des premiers adventistes à propos des manifestations prophétiques et leur position au sujet du ministère d'Ellen White. La deuxième partie concerne la période allant de 1851 à 1862, quand les adventistes développèrent des bases bibliques plus solides au sujet de dons de prophétie et Ellen White, en raison de questions et de controverses au sein de leur mouvement. La troisième partie s'intéresse à la période allant de 1863 à 1872, alors que le don de prophétie d'Ellen White était confirmé dans la théologie des adventistes. Ce chapitre se termine par quelques remarques de conclusion. Acceptation du don de prophétie, les années précédant 1850. Ellen Harmon eut sa première vision en décembre 1844, quelques semaines après la grande déception du 22 octobre 1844. Bien que de nombreux millérites, et notamment les responsables, soient sceptiques concernant les visions en général, beaucoup d'adventistes sabbatistes qui quittèrent le mouvement millérite après cette déception considérèrent que ces visions étaient authentiques et commencèrent à défendre ce qu'ils pensaient être une manifestation du don de prophétie. En fait, il n'est pas surprenant qu'un grand nombre d'adventistes aient rapidement accepté les visions d'Ellen White si nous prenons en compte le contexte dans lequel ce mouvement apparut. Trois éléments peuvent être utiles pour comprendre ce contexte. Premièrement, le paysage religieux en Amérique qui était ouvert aux expériences charismatiques et visionnaires. Comme l'écrivit Nathan Hatch, de très nombreuses publications de méthodistes et de baptistes, du nord et du sud, des personnes noires ou blanches, montrent que beaucoup de gens étaient prêts à considérer que les rêves et les visions étaient inspirés par Dieu et que c'était pour lui un moyen de guider et d'instruire son peuple. En fait, à cette époque, les véritables conversions étaient presque toujours associées à des manifestations extérieures du Saint-Esprit. Non seulement les croyants s'attendaient à une rencontre surnaturelle avec Dieu par des visions et des rêves, des impressions surnaturelles, des guérisons, des miracles, des signes et autres, mais ils aspiraient à cela. Les femmes et les enfants, notamment dans la tradition méthodiste, avaient également la possibilité de participer aux services de culte en témoignant de leur conversion, des expériences souvent racontées de façon très émotive. De plus, la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle furent marqués par l'apparition de nombreux prophètes ou visionnaires de toutes sortes, hommes et femmes. S'intéressant à une étude menée sur des sources publiées uniquement, brochures, journaux, publications littéraires et mémoires, Suzanne Juster identifia au moins 315 hommes et femmes qui étaient reconnus comme prophètes en Angleterre et en Amérique du Nord entre 1750 et 1820. En réalité, ce nombre devait être bien plus élevé, car beaucoup d'entre eux étaient illettrés ou ne tenaient pas de journaux personnels. Certains se firent connaître brièvement, alors que d'autres laissèrent un héritage notoire et eurent de nombreux partisans, parfois même des milliers. Il est intéressant de noter qu'il y avait au moins 5 prophètes dans la région de Portland, dans le Maine, et 4 d'entre eux, dont Helen Harmon, étaient des femmes. C'est donc dans ce contexte que les adventistes sabbatistes durent prendre position concernant le ministère prophétique d'Ellen White et son authenticité. Dans le cadre de notre étude, un deuxième élément important dans le cadre de notre étude concerne les traditions chrétiennes des premiers fondateurs du mouvement adventiste sabbatiste. Ellen White, par exemple, était méthodiste dans sa jeunesse et, cela a été souligné, elle avait l'habitude des services empreints d'émotions et des expériences de conversion éclatantes. Les deux autres fondateurs, James White et Joseph Bates, venaient de la Christian Connection. Le but de ce mouvement était de réformer les églises existantes qui avaient adopté des habitudes non bibliques et de retrouver la pureté du christianisme du Nouveau Testament. Les chrétiens, comme on les appelait, mettaient l'accent sur la prééminence de la Bible. Après tout, William Kincaid, vers 1783, un théologien et l'un des fondateurs de ce mouvement, écrivit qu'il avait adopté toutes ses croyances religieuses en lisant simplement la Bible, sans notes, sans commentaires, ni références. De plus, d'après Kincaid, la doctrine des dons spirituels, dont le don de prophétie, était au cœur du Nouveau Testament. En s'appuyant sur 1 Corinthiens 12, versets 8 à 12, et Éphésiens 4, versets 11 à 16, il défendait l'idée de la continuité des dons spirituels jusqu'à la fin des temps. Kincaid soulignait qu'il n'y avait pas un seul texte dans la Bible évoquant l'intention de Dieu de mettre fin aux dons spirituels après l'époque apostolique. Comme nous le verrons plus tard, ce point de vue devint l'un des arguments majeurs utilisés par les adventistes sabbatistes pour justifier le don de prophétie d'Ellen White. Le troisième élément important permettant de comprendre pourquoi les adventistes sabbatistes acceptèrent le ministère prophétique d'Ellen White est l'attitude des millérites concernant les visions et les manifestations charismatiques avant et après la Grande Déception. D'un côté, les millérites étaient familiarisés avec différentes formes d'expression charismatique et visionnaire, et beaucoup de leurs rencontres étaient caractérisées par une grande excitation propre à ces activités. William Ellis Foy, 1818 à 1893, par exemple, était un pasteur baptiste libre et un prédicateur millérite qui affirmait avoir eu plusieurs visions au début des années 1840. Ellen White se souvenait avoir vu Foy et lui avoir parlé, et certaines de leurs visions semblent être porteuses du même message. D'un autre côté, les responsables millérites étaient sceptiques et considéraient que ces manifestations étaient dangereuses et contraires à la Bible. Ils firent même des déclarations officielles dans lesquelles ils déclaraient n'avoir aucune confiance dans les visions, les rêves ou les révélations personnelles. George Knight explique à juste titre que leur attitude, notamment après la Grande Déception, peut être vue comme une réaction envers certaines formes d'excitation religieuse manifestées par les adeptes du spiritisme et d'autres groupes religieux, comme les Shakers et les Mormons, tous dirigés par un prétendu prophète. D'après les millérites, Ellen White appartenait à cette catégorie. Même si les adventistes sabbatistes comme les millérites ne niaient pas l'existence de manifestations prophétiques extrêmes, les arguments qu'ils avançaient avaient donc deux objectifs. A. Établir l'autorité biblique de son don prophétique et B. Faire la distinction entre ceux qu'ils considéraient comme des faux prophètes, qui étaient nombreux au XIXe siècle, et d'autres fanatiques, et Ellen White, dont le don de prophétie était authentique. Même si tous les adventistes sabbatistes n'acceptèrent pas Ellen White au début, son influence commença à croître, et son don fut de plus en plus souvent perçu comme authentique. À la fin des années 1840, les sabbatistes présentèrent 4 arguments bibliques avec des applications pratiques. Voici un aperçu de ces arguments.
Tout d'abord, ils affirmaient que la Bible contenait suffisamment d'éléments permettant de justifier l'existence du don de prophétie. En 1845, James White écrivit « Les serviteurs de Jésus-Christ n'ont qu'un point d'attache sûr, à savoir les vérités bibliques. Il est vrai que nous attendons les manifestations glorieuses de l'Esprit de Dieu.
et je crois que la Bible veut que nous aspirions à des visions et à l'apparition de personnes pouvant discerner les esprits, même en ces temps de la fin. Mais nous ne pouvons juger que par les fruits qui sont portés. Il y a une sœur, dans le Maine, qui a eu une vision claire du peuple de Dieu se dirigeant vers la cité de Dieu. De nouveau, en 1847, quand il publia la première vision d'Ellen White dans « A Word to the Little Flock », la première publication sabbatiste, James White inclut plus de 80 références bibliques dans le texte original de la vision afin de souligner que son message était en harmonie avec la Bible et ses enseignements. Les arguments de James White étaient le reflet de la tradition chrétienne qui était la sienne, à savoir la Bible seule et la conviction que la Bible allait dans le sens de l'existence du don de prophétie. Joseph Bates fit une déclaration similaire dans son livre « A Seal of the Living God » publié en 1849, quand il nota que ceux qui ne croyaient pas aux visions pouvaient tout aussi bien dire qu'ils ne croyaient pas à la Bible, car certaines, voire même beaucoup de scènes merveilleuses et de promesses faites à l'Église de Dieu avaient été transmises grâce à des visions. Ainsi, les premiers adventistes sabbatistes pensaient que la Bible confirmait que le don de prophétie pouvait se manifester et que le don d'Ellen White était authentique. La deuxième raison pour laquelle les adventistes sabbatistes acceptèrent le fait qu'Ellen White ait des visions dans les années 1840 est liée à l'eschaton, ou les derniers jours. Cet argument était fondé sur les événements de la Pentecôte relatés dans Acte 2, versets 17 à 20, en lien avec la prophétie de Joël 2, versets 28 à 30. Contrairement à beaucoup de chrétiens qui pensaient que le don de prophétie avait pris fin avec l'apôtre Jean, les adventistes sabbatistes considéraient que les dons spirituels, dont le don de prophétie, devaient continuer à exister jusqu'à la fin des temps. Ce don devait se manifester dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité, à savoir l'époque dans laquelle il se trouvait. James White pensait que cet argument, basé sur Joël 2 et Acte 2, était l'un des arguments principaux en faveur de l'authenticité du don d'Ellen White. D'après lui, la prophétie de Joël n'avait pas été entièrement accomplie lors de la Pentecôte. Il expliquait que les signes relatifs au soleil et à la lune n'avaient pas été visibles ce jour-là. Il n'y avait pas non plus eu de rêves et des visions. Ainsi, une partie seulement de cette prophétie s'était accomplie le jour de la Pentecôte, et tout devait s'accomplir lors des derniers jours. Puisque James White interprétait les derniers jours comme la période à laquelle il vivait, il pensait que le temps était venu, pour les croyants, de recevoir des rêves et des visions du Seigneur. Il est intéressant de noter que, quelques années plus tard, il offrit une récompense de $500 à quiconque pourrait trouver un texte du Nouveau Testament montrant que, selon l'autorité divine, les dons spirituels avaient été retirés de l'Église. Manifestement, James pensait que personne ne le pourrait et qu'il ne perdrait pas son argent. Comme James White, Joseph Bates affirmait que la Bible était assez claire sur le fait que Dieu accorderait des visions à son peuple dans les derniers jours. Ainsi, si les adventistes sabbatistes vivaient dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité comme ils le pensaient, alors le don de prophétie manifesté par Ellen White était attendu. Cet argument fut très souvent utilisé pour justifier leur position. La troisième raison qui explique que les adventistes sabbatistes acceptèrent le don d'Ellen White à cette période est l'influence positive que ces visions exercèrent sur les croyants. Ils appelèrent cela l'argument des bons fruits. C'était un argument de nature plus pragmatique que théologique et qui était fondé sur l'expérience personnelle des croyants. Cependant, même si une majorité d'adventistes sabbatistes acceptèrent le don d'Ellen White, certains avaient malgré tout des doutes. Mais en réfléchissant à la question et en voyant les bons fruits que les visions produisaient, individuellement et collectivement, ils finirent par considérer que son don était authentique. L'exemple le plus célèbre est certainement celui de Joseph Bates, le fondateur du mouvement. Voici ce qu'il déclara au sujet d'Ellen White. « J'ai vu l'auteur de ces visions il y a 2 ans, et je l'ai alors entendu relater le contenu de ces visions telles qu'elle les a décrites et publiées depuis à Portland, 6 avril 1846. Je ne vis rien dans ces visions qui était contraire à la parole. Pourtant, j'ai éprouvé une grande inquiétude, et pendant longtemps, j'ai voulu croire qu'il s'agissait uniquement du fruit de son esprit malade. » La déclaration de Joseph Bates est étonnante, car il venait de la Christian Connection, qui faisait preuve d'ouverture concernant l'idée de la continuité des dons. Mais c'est aussi en raison de cette tradition qu'il laissa le champ des possibilités ouvert. Il déclara « Je doute comme Thomas, je ne crois pas aux visions. Mais si je pouvais croire que le témoignage donné par notre sœur ce soir était réellement la voix de Dieu s'adressant à nous, je serais le plus heureux des hommes. » Perplexe, Joseph Bates essaya de réfléchir à la question, et il saisit toutes les occasions de lui poser des questions, encore et encore, ainsi qu'aux personnes qui l'accompagnaient, afin de découvrir, si possible, la vérité. C'est en novembre 1846, à Topsham, dans le Maine, que Joseph Bates comprit que le don d'Ellen White était authentique, quand elle eut une vision qui contenait des données astronomiques, décrivant d'autres planètes. Joseph Bates était un ancien capitaine de marine, et il s'intéressait à ce sujet. Ainsi, il connaissait bien les données astronomiques de son temps. Sachant qu'Ellen White ne savait rien à ce propos, il comprit que cette vision était hors de portée de sa connaissance et de son contrôle. Grâce à cette expérience personnelle, Joseph Bates finit par croire au don de prophétie d'Ellen White. De la même façon, après avoir fait des recherches personnelles et été témoin des fruits de son activité prophétique, Eman S. Gurney déclara qu'il était convaincu de l'authenticité de son don. Il est intéressant de noter qu'il finança la moitié des coûts de publication d'une brochure relatant sa première vision en 1846. La manifestation du don de prophétie d'Ellen White porta un autre bon fruit, à savoir sa capacité à réunir les croyants dans l'unité de la foi et à les fortifier spirituellement. Otis Nichols, par exemple, utilisa cet argument dans une lettre qu'il adressa à William Miller en 1846. Il souligna que, lorsque les gens comprenaient que les visions d'Ellen White venaient du Seigneur, ces visions faisaient fondre leur cœur comme s'ils étaient de petits enfants. Elles nourrissaient et fortifiaient les plus faibles. Elles les encourageaient à faire preuve de foi et au mouvement du septième jour. En revanche, il déclara que ceux qui rejetaient ces messages retournaient rapidement dans le monde et n'avaient qu'une foi superficielle. Les premières rencontres des sabbatistes qui eurent lieu dans les années 1840 furent aussi l'occasion de constater que le don d'Ellen White permettait d'unir les croyants. Par exemple, lors de la rencontre qui eut lieu à Volney, dans l'État de New York, en août 1848, un vif débat eut lieu sur les doctrines bibliques. Mais soudain, Ellen White eut une vision dans laquelle elle vit certaines erreurs de ceux qui étaient présents, ainsi que la vérité permettant de corriger ces erreurs. Suite à cette vision, l'unité fut retrouvée et la vérité remporta la victoire. Cependant, cela ne signifie pas qu'Ellen White joua un rôle majeur dans la formulation des croyances des adventistes du septième jour. George Knight souligne ceci. Le rôle que Madame White joua dans le développement doctrinal consista à confirmer les doctrines et non à les définir. Après tout, Ellen White avait toujours considéré son don comme une « petite lumière » menant le peuple de Dieu à la « grande lumière », la Bible. Mais le fait de constater que le don d'Ellen White portait de bons fruits et permettait d'unir les croyants encouragea les sabbatistes à considérer que ce don était authentique et sincère. La quatrième raison fut l'existence de faux prophètes. Comme les adventistes millérites, les adventistes ne niaient pas l'existence de faux prophètes, mais ils considéraient que cela n'était pas incompatible avec la manifestation du véritable don de prophétie. Au contraire, les faux prophètes les confortaient dans l'idée qu'il y avait de véritables prophètes. Ainsi, pour les sabbatistes, la question n'était pas de savoir si le véritable don de prophétie pouvait se manifester, mais de faire la distinction entre les véritables manifestations prophétiques et les autres. Ils croyaient que la marque distinctive du peuple du reste était la nature prophétique de ces messages en lien avec la Bible. C'est clairement ce qu'Otis Nichols avait à l'esprit quand il écrivit à William Miller que les membres de la Christian Connection avaient le devoir de ne pas rejeter les prophéties, mais plutôt de prouver toute chose et de retenir ce qui était bon. 1 Thessaloniciens 5, versets 20-21. Essayant de convaincre Miller que le don d'Ellen White était authentique, Nichols souligna que sa première vision était l'accomplissement exact de ce que les Millerites avaient vécu lors de la Grande Déception de 1844, dans la mesure où lui et les adventistes sabbatistes étaient concernés. Cette vision était aussi conforme au récit biblique. Joseph Bates avait la même position concernant les vrais et les faux prophètes. Comme Nichols, il réfutait l'idée que toutes les visions devaient être considérées comme des manifestations mensongères. « Nous sommes appelés à mettre les esprits à l'épreuve », écrivit-il en 1849, « afin de discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ainsi, mettons aussi à l'épreuve les visions en les justifiant et en retenant ce qui est bon. » Puis Bates devint plus précis et insista sur le fait que les visions d'Ellen White étaient clairement en harmonie avec la parole de Dieu et le plan du salut. Se fiant à l'authenticité des visions, il déclara donc qu'Ellen White était un véritable prophète de Dieu. De la même façon, James White défendit la validité du don de prophétie en évoquant l'existence de faux prophètes. Il souligna que ceux qui rejetaient les révélations particulières sous prétexte qu'il y avait des faux prophètes pouvaient aller plus loin et nier le fait que Dieu se soit parfois révélé par l'intermédiaire de rêves ou de visions parce que les faux prophètes ont existé de tout temps. Ainsi, en 1850, les adventistes sabbatistes avaient accepté le ministère prophétique d'Ellen White en soulignant que A. son ministère était confirmé par la Bible, B. il s'agissait d'une manifestation du Saint-Esprit pour les derniers jours, C. il portait de bons fruits parmi les croyants, et D. il était différent des manifestations prophétiques contrefaites de l'époque. Cependant, le don d'Ellen White était considéré plus comme un signe qu'une doctrine. Au cours des deux décennies qui suivirent, alors que les adventistes sabbatistes continuaient à développer leurs premiers arguments et défendaient le ministère d'Ellen White, le don de prophétie devint l'un de leurs enseignements distinctifs. Justification du don de prophétie, 1851 à 1862. Au cours des années 1850 et au début des années 1860, les adventistes sabbatistes furent confrontés à de nouvelles difficultés concernant le don d'Ellen White. Ces controverses étaient essentiellement internes. Elles portaient sur la validité du ministère prophétique et entraînèrent la formation des premiers courants, les mouvements Messenger et Age to Come. Au début, ces controverses étaient essentiellement personnelles, puis certaines personnes amenèrent le débat sur le plan théologique. Le mouvement Messenger émergea en 1853 en raison d'une vision d'Ellen White concernant Case et Russell, deux pasteurs adventistes de Jackson, dans le Michigan. N'appréciant pas sa vision, ils déclarèrent que le don d'Ellen White était faux et mensonger. Stephenson et Hall, du Wisconsin, fondèrent le mouvement Age to Come. Les deux hommes étaient des pasteurs adventistes du premier jour qui avaient accepté le message du troisième ange et s'étaient joints aux sabbatistes, mais qui continuaient à mettre en avant la théorie Age to Come, ou le millénium. Quand leurs positions furent critiquées dans les pages de la revue Review and Herald, Stephenson et Hall se joignirent au mouvement Messenger et tournèrent le dos aux sabbatistes et aux visions d'Ellen White. Stephenson et Hall finirent par renoncer à croire au sabbat et ils perdirent tous leurs partisans parmi les croyants sabbatistes. Ces groupes dissidents commencèrent à publier leurs idées dans Messenger or Truth, le premier périodique critique vis-à-vis des sabbatistes et de leur position concernant les visions d'Ellen White. Outre les sujets qui avaient été soulevés lors de la période précédente, ces détracteurs avancèrent de nouveaux arguments réfutant la position des sabbatistes concernant Ellen White. Tout d'abord, ils les accusèrent d'avoir une autre règle de foi, en expliquant que les visions étaient contraires au principe de sola scriptura, auquel ils affirmaient pourtant adhérer. De plus, ils déclarèrent que le témoignage de Jésus, d'Apocalypse 12, verset 17, n'avait rien à voir avec le don de prophétie en lien avec le peuple du reste de Dieu, comme le disaient les sabbatistes, mais qu'il s'agissait d'une référence à l'Esprit du Christ en général. Troisièmement, ils les accusèrent de faire des visions un critère d'appartenance au mouvement. Et quatrièmement, ils croyaient qu'une femme ne pouvait pas exercer un ministère prophétique. Les adventistes sabbatistes durent réagir à ces nouveaux arguments et défendre de nouveau leur position concernant Ellen White. Ce faisant, leur croyance au sujet du don de prophétie devint plus solide. Concernant l'argument de la Bible seule, les adventistes sabbatistes ne dirent rien de nouveau. Cependant, ces nouvelles accusations les aidèrent à clarifier leur position au sujet du lien entre la Bible et le don de prophétie d'Ellen White. En 1851, James White publia le premier article entièrement dédié au don de prophétie. Il reprit les arguments qui avaient déjà été exposés, mais il insista sur le lien entre la Bible et les dons spirituels, et notamment le don de prophétie. Sans laisser la place au doute concernant la position des adventistes sabbatistes sur le sujet, il déclara « Les dons de l'esprit doivent tous trouver leur place. La Bible est un rocher éternel. Elle est notre règle de foi et de pratique. Ainsi, tous les chrétiens doivent considérer la Bible comme une règle de foi parfaite et prier avec ferveur pour que le Saint-Esprit les aide à discerner toute la vérité alors qu'ils sondent les Écritures. C'est leur devoir. Les chrétiens ne doivent pas chercher à savoir ce qu'ils doivent faire en se détournant des Écritures et en se basant uniquement sur les dons, car cette attitude serait dangereuse. Ce serait mal comprendre le rôle des dons. La parole doit avoir la priorité, et l'Église doit la considérer comme une règle de vie, la fontaine de toute sagesse permettant de faire de bonnes œuvres. Mais si une partie de l'Église se détourne des vérités bibliques et devient donc faible et malade, et si le troupeau se sépare, alors il semble important que Dieu ait recours au don de l'Esprit pour reprendre et guérir ceux qui s'égarent. Nous devons le laisser agir. Manifestement, pour James White et les sabbatistes, la Bible était la seule règle de foi et de doctrine. Les dons n'étaient jamais accordés pour être une règle de foi, mais pour guider le peuple vers la Bible et ses enseignements. Ainsi, les dons de l'esprit avaient pour fonction de corriger certaines choses. Ils n'étaient pas sur un pied d'égalité avec la Bible. James White insista de nouveau sur le principe de sola scriptura quand il publia de nouveau cet article en 1854, après la controverse du mouvement Messenger. Dans une petite note, il expliqua que l'article était republié afin que les lecteurs puissent comprendre par eux-mêmes quelle avait toujours été leur position sur ce sujet. La conviction que la Bible et la Bible seule est notre règle de foi et de pratique, poursuivit-il, n'est pas incompatible avec la manifestation des dons dans l'Église. Les rejeter reviendrait à rejeter les passages de la Bible qui les présentent. Faisons confiance à la Bible dans son intégralité et qu'elle soit notre règle de foi et de pratique. Donnons aux dons la place qui leur revient, et tout ira bien. Ellen White confirma aussi la position des sabbatistes sur le lien entre la Bible et son don de prophétie quand elle écrivit en 1851. Cher lecteur, je vous recommande la parole de Dieu, qu'elle soit la règle de votre foi et de votre vie. C'est par elle que nous serons jugés. Dans sa parole, Dieu a promis de donner des visions dans les derniers jours, non comme une nouvelle règle de foi, mais pour consoler son peuple et corriger ceux qui s'éloignent des vérités bibliques. Plus tard, quand certains croyants voulurent utiliser son don au lieu de la Bible pour trouver des conseils, elle affirma « De nombreuses personnes viennent nous voir, disant « Puis-je faire ceci ? Dois-je agir ainsi ? Puis-je porter ce vêtement ou cet accessoire ?» Je leur réponds alors « Vous professez être des disciples du Christ. Étudiez la Bible. Lisez avec attention et dans un esprit de prière ce qui est dit au sujet de la vie de notre cher Sauveur quand il était sur la terre. Imitez-le et vous ne vous écarterez pas du chemin étroit. Nous refusons catégoriquement d'être votre conscience. Si nous vous disons ce que vous devez faire, vous exprimerez le désir que nous vous guidions au lieu d'aller à Jésus par vous-même. Ainsi, pour les sabbatistes, la Bible était supérieure aux dons. Les messages d'Ellen White étaient d'origine divine, mais ils ne devaient pas être mis sur un pied d'égalité avec la Bible. En même temps, de nombreux éléments bibliques permettaient de justifier l'existence du don de prophétie jusqu'à la fin des temps. Rejeter cette idée revenait à rejeter une partie du récit biblique. Un autre point mérite d'être mentionné concernant le lien entre la Bible et Ellen White. Au cours des années 1850, les adventistes sabbatistes décidèrent d'éviter de publier le contenu des visions d'Ellen White dans la revue Review and Herald, leur publication principale. D'une part, la décision semble avoir été prise en réaction aux accusations selon lesquelles les adventistes sabbatistes avaient une autre règle de foi. D'autre part, James White désirait faire de cette revue un outil d'évangélisation. Il reconnaissait que l'attitude de beaucoup d'anciens millérites avait commencé à changer. Ainsi, en août 1851, il écrivit « Désormais, la porte est ouverte quasiment en tout lieu, ce qui nous permet de proclamer la vérité. De nombreuses personnes sont prêtes à lire des publications auxquelles elles ne portaient aucun intérêt précédemment. Nous pouvons faire beaucoup pour le Seigneur qui a tout fait pour nous. » Par conséquent, James White décida de ne pas évoquer les visions d'Ellen White dans la Review, mais de les publier dans une revue à part, appelée Review and Herald Extra, destinée uniquement aux sabbatistes. Dans le premier numéro, il expliqua « Étant donné que de nombreuses personnes ont des préjugés à l'égard des visions, nous pensons qu'il est préférable que nous n'en parlions pas dans notre publication habituelle, Review and Herald. Ainsi, nous publierons le compte-rendu des visions à part, au bénéfice de ceux qui pensent que Dieu peut tenir parole et accorder des visions dans les derniers jours. Étonnamment, nous n'avons pas trouvé de numéro de Review and Herald Extra. Que s'est-il passé ? Manifestement, certaines personnes proposèrent de financer la publication de A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen J. White, une petite brochure contenant les premières visions d'Ellen White. Puis, en 1854, un supplément to the Christian Experience and Views of Ellen J. White fut publié. Un an plus tard, en 1855, les témoignages d'Ellen White commencèrent aussi à être publiés dans une brochure de petit format. Les revues de 1851 et 1854, ainsi que la publication des témoignages, s'avérèrent être un substitut de la Review and Herald Extra. Même si des raisons légitimes justifiaient la décision de ne pas publier Ellen White dans la Review, cela eut malgré tout des conséquences négatives. Les responsables sabbatistes en convinrent quelques années plus tard. Tout d'abord, même s'ils croyaient au don de prophétie d'Ellen White, ils donnèrent l'impression de faire preuve de timidité. Deuxièmement, cela entraîna un déclin spirituel et une perte d'intérêt pour le don de prophétie chez certains croyants. Les responsables décidèrent qu'un changement était nécessaire. Il eut lieu lors de l'Assemblée générale de 1855. Les délégués qui se rassemblèrent à Battle Creek nommèrent un comité composé de Joseph Bates, Wagoner et Cornell. Ce comité devait s'adresser aux saints de la part de l'Assemblée réunie pour parler des dons dans l'Église. La véritable préoccupation était bien sûr le don de prophétie en particulier. Le comité agit rapidement et fit son rapport le jour même. Il est intéressant de noter qu'il n'exprima pas de regrets au sujet du don de prophétie, mais qu'il fit des suggestions d'application pratique en lien avec ses positions concernant les visions d'Ellen White. Chers frères et sœurs en Christ, nous professons nous fonder sur la parole et marcher selon les voies de Dieu, mais nous reconnaissons qu'en tant que peuple, nous n'avons pas obéi aux injonctions divines et que nous n'avons pas su apprécier le glorieux privilège qui nous revient, à savoir mettre en pratique les dons que notre Maître béni nous a confiés. Nous pensons que ceci, les visions, vient de Dieu, mais nous confessons avoir fait preuve d'incohérence, ce qui, nous croyons, a déplu à Dieu, en affirmant les considérer comme des messages de Dieu tout en les abordant comme s'il s'agissait d'inventions humaines. Nous craignons que cela n'ait entraîné une réticence à transmettre les réprimandes du Christ, qui sont bien plus précieuses que les trésors de la terre, et un désir d'apaiser les sentiments de nos contradicteurs. La parole et notre expérience nous ont montré que, ce faisant, nous n'avons pas honoré Dieu ni fait avancer sa cause. Manifestement, la déclaration du comité était le reflet de la controverse évoquée dans Messenger, qui avait été source de division et de confusion dans les églises et parmi les croyants. Les sabbatistes étaient prêts à adopter une autre ligne de conduite concernant les visions d'Ellen White et leur médiatisation. Cependant, ce changement ne se produisit pas immédiatement. Les adventistes sabbatistes continuèrent à faire preuve de prudence en raison des préjugés à l'égard du don d'Ellen White et de son lien avec la Bible. Il fallut attendre une autre décennie avant qu'un véritable changement s'opère dans la façon d'évoquer ces messages. La rencontre de 1855 fut un tournant. Le lien entre la Bible et les écrits prophétiques d'Ellen White continua à être débattu au cours des années 1850. Mais les adventistes, ainsi qu'Ellen White, avaient toujours mis l'accent sur la prééminence de la Bible et avaient toujours fait la distinction entre le rôle de la Bible et la raison d'être des dons. Par ailleurs, au cours de cette période, les adventistes sabbatistes avancèrent un autre argument justifiant leur position au sujet du don de prophétie, à savoir leur interprétation du texte d'Apocalypse 12, verset 17. En effet, ils étaient en désaccord avec l'interprétation de leurs détracteurs et ils firent deux observations importantes. Premièrement, ils déclarèrent que le don de prophétie était une caractéristique fondamentale et un signe distinctif du peuple du reste de Dieu à la fin des temps. Deuxièmement, ils affirmaient que le texte d'Apocalypse 12, verset 17, devait être interprété à la lumière de celui d'Apocalypse 19, verset 10. Ainsi, James White écrivit « Par l'intermédiaire de Joël, Dieu a promis de faire de grandes choses pour le reste juste avant son retour. » Il poursuivit en déclarant « C'est le reste qui est appelé à être témoin de ces choses. C'est le reste, autrement dit l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de la prophétie. » Apocalypse 19, verset 10. Dans le même esprit, Robbins déclara que, lorsque l'apôtre Jean vit le reste mentionné dans cette prophétie, Apocalypse 12, verset 17, il révéla ses caractéristiques distinctives afin qu'elles ne soient pas oubliées par la multitude des chrétiens qui ne le sont que de nom. « Quelles sont les particularités de ce reste ?» demanda Robbins. « Il se distingue en gardant les commandements de Dieu et en ayant le témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie. » Par la suite, cette interprétation devint l'argument principal, montrant que les sabbatistes croyaient que le véritable reste de Dieu devait posséder le don de prophétie d'une part, et que le don manifesté par Ellen White confirmait qu'il formait ce reste d'autre part. Une troisième question était débattue à cette époque. Le don de prophétie devait-il être un critère d'appartenance à l'Église? Certes, les croyants sabbatistes ne s'organisèrent officiellement qu'en 1863, mais ce sujet fut abordé au milieu des années 1850, notamment en raison des controverses des mouvements Messenger et Age to Come. Les détracteurs soulignèrent que certaines personnes qui avaient fait partie du groupe des sabbatistes en étaient finalement sorties parce qu'elles remettaient en question les visions d'Ellen White ou n'y croyaient pas. Cependant, les adventistes sabbatistes et Ellen White nièrent avoir fait de cette croyance un critère d'appartenance. James White s'exprima le premier en 1855. Il réfuta cette accusation et écrivit « Certaines personnes sont déterminées à faire croire que la Review et ses dirigeants font des positions de Madame White un critère essentiel de doctrine et d'appartenance. Il est important de dire que ces personnes cherchent à nous égarer. » Il cita alors une déclaration rédigée par un groupe sabbatiste, probablement des croyants de Battle Creek, au sujet de leur position concernant les visions d'Ellen White. Nous affirmons connaître frères et sœurs White ainsi que leurs enseignements et les actions qu'ils mènent en ces temps d'épreuve. Nous ne les avons jamais entendus dire que les visions devaient faire partie intégrante de la foi religieuse ou devaient être un critère d'appartenance. De plus, James White souligna que toutes les croyances des sabbatistes avaient été définies en fonction des Écritures avant même que Madame White ne prenne position à leur sujet. Il poursuivit en affirmant que ses détracteurs étaient précisément ceux qui voulaient faire des visions un critère essentiel. Les sabbatistes désiraient enseigner la parole de Dieu alors qu'ils cherchaient à diviser les églises en critiquant Ellen White et ses visions. Ainsi, les adventistes sabbatistes établirent clairement que la Bible et non les visions étaient leur règle de foi et leur critère d'appartenance à l'Église. Les adventistes sabbatistes continuèrent à étudier le lien entre le don de prophétie et la question des critères à la fin des années 1850. Ils commencèrent à faire une distinction entre deux groupes de croyants, ceux qui acceptaient le don d'Ellen White et ceux qui en doutaient ou hésitaient à se prononcer. Quand certaines personnes s'inquiétèrent du fait que ces visions n'étaient pas considérées comme un critère d'appartenance, James fit une déclaration légèrement différente de la précédente. Dire sans raison précise que les visions constituent un critère et l'appliquer à ceux qui ne savent rien à ce propos, au sujet de leur inspiration et des fruits qu'elles peuvent porter à une époque où on ne compte plus les manifestations que Satan s'efforce de faire passer pour authentiques, relèverait du pur fanatisme. D'un autre côté, le fait que ceux qui croient à ces visions refusent d'en faire un critère pour eux-mêmes est tout à fait irrationnel. Je crois que les visions appartiennent à l'Église et qu'elles sont un critère pour ceux qui croient à leur origine divine. Ainsi, James White commença à considérer les visions comme un critère, mais uniquement pour ceux qui acceptaient l'idée que le don d'Ellen White soit d'origine divine. En 1861, Uriah Smith fit une nouvelle distinction entre la doctrine des dons spirituels et le don spécifique d'Ellen White. Il considérait que le fait d'accepter la doctrine des dons spirituels était un critère d'appartenance à l'Église, mais il mettait le don d'Ellen White à part. Ainsi, les adventistes sabbatistes évoluèrent concernant ce sujet. Mais ce qui est remarquable, c'est que les premiers responsables sabbatistes, ainsi qu'Ellen White, étaient désireux de faire preuve de tolérance vis-à-vis de ceux qui voulaient sincèrement découvrir la vérité au sujet du don de prophétie. Ellen White déclara « Il ne faut pas insister auprès de ceux qui n'ont jamais vu une personne en vision et qui ignorent l'influence des témoignages. De telles personnes ne devraient pas être privées des privilèges et des avantages de l'Église si par ailleurs leur vie chrétienne est correcte. Nous ne devons pas les repousser, mais faire preuve à leur égard de beaucoup de patience et d'amour fraternel jusqu'à ce qu'ils prennent position pour ou contre. » Bien sûr, les croyants étaient invités à accepter l'idée que le don d'Ellen White était authentique après y avoir réfléchi. En même temps, ceux qui ne savaient rien de ces visions mais les combattaient aveuglément et étaient cause de division devaient être exclus au nom de l'unité des croyants. Bien sûr, la qualité de la relation avec ceux qui doutaient des visions d'Ellen White dépendait de leur honnêteté et de leur sincérité. En raison de sa complexité, ce critère continua à être débattu et étudié au cours des années qui suivirent. Les adventistes sabbatistes étaient confrontés à un autre problème, à savoir qu'Ellen White était une femme. C'est surtout après les années 1850 que cette question fut soulevée. Néanmoins, la controverse était suffisamment importante pour que les adventistes sabbatistes éprouvent le besoin de publier de nombreux articles sur le sujet. Dès 1855, David Arnold souligna que, d'après le texte de Joël 2, le plan de Dieu consistait à répandre son souffle non seulement sur les fils, aussi sur les filles, afin que tous prophétisent. Le don de prophétie ne dépendait donc pas du sexe de son récipiendaire. Wellcome rédigea également un article important sur la question du genre en 1860. Après une étude approfondie du texte de 1 Corinthiens 14, versets 34-35, « Que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. » Il souligna que ce passage n'avait rien à voir avec le don de prophétie, mais qu'il était question de l'ordre qui devait régner dans les églises de Corinthe. Il cita ensuite un grand nombre d'exemples de prophétesses dans la Bible et conclut ainsi « La révélation divine nous montre que les hommes et les femmes sont identiques en Jésus-Christ, que toute distinction est abolie en lui, comme c'est le cas pour les juifs et les gentils, les hommes libres et les esclaves. Ainsi, la révélation nous permet de connaître d'importantes vérités et nous devons en témoigner de la même façon. Qu'aucun obstacle ne soit placé sur le chemin des femmes, mais qu'elles exercent le rôle que Dieu les appelle à exercer. Qu'elles ne soient pas réduites au silence par les règles de l'Église, mais qu'elles puissent louer Dieu et faire découvrir aux pécheurs l'agneau de Dieu. N'attristons pas l'esprit en leur imposant le silence au sein de la congrégation. » Même si Wellcome ne mentionna pas spécifiquement Ellen White, son intention était de défendre son don de prophétie en dépit du fait qu'elle était de sexe féminin. De la même façon, Bourdeau souligna que, d'après les exemples donnés dans la Bible, les femmes avaient le droit de prendre la parole dans les assemblées et que la position des adventistes du septième jour concernant le don de prophétie et Ellen White n'était pas invalidée par le récit biblique. Il poursuivit en déclarant « Les plus spirituels et les plus consacrés parmi nous témoignent qu'ils ont été bénis par les visions qui ont été manifestées. Et, les visions ont eu sur eux la même influence que celle de la parole quand ils se sont convertis. Par conséquent, les adventistes sabbatistes affirmèrent que, selon la Bible, les femmes comme les hommes avaient le droit d'exercer le don de prophétie. Au début des années 1860, les adventistes sabbatistes avaient défini une position biblique et théologique très claire concernant le don de prophétie. Les premières controverses ne les ébranlèrent pas, mais leur donnèrent l'occasion de défendre et d'expliquer leur position vis-à-vis d'Ellen White. La nouvelle dénomination continua à confirmer sa position au cours des années qui suivirent. Confirmation du don de prophétie. 1863 à 1872. Entre 1863 et 1872, les adventistes du septième jour furent encore confrontés aux critiques de certaines personnes concernant le don d'Ellen White. D'une part, l'Église dut réagir quand Snook et Brinkerhoff, deux pasteurs, quittèrent l'Église en raison de problèmes liés au don de prophétie d'Ellen White. En 1866, ils avaient publié « The Visions of Ellen White, Not of God », remettant en question la validité de son ministère prophétique. D'autre part, l'Église dut aussi se défendre contre des critiques venant de l'extérieur. En réalité, des gens comme William Sheldon et Miles Grant considéraient l'Église nouvellement formée comme une dénomination dirigée par un faux prophète de plus. Les critiques étaient les mêmes que les années précédentes, mais les adventistes sabbatistes durent répondre à deux nouveaux arguments. Le premier était que les adventistes avaient supprimé certains des premiers écrits d'Ellen White parce qu'ils n'étaient pas conformes à l'écriture. L'Église fut donc accusée de malhonnêteté. Le deuxième était que son don n'avait rien d'extraordinaire ou de surnaturel et qu'elle n'était donc qu'un faux prophète comme les autres. Les adventistes réagirent et confirmèrent leur position sur les dons. Au début des années 1870, le don d'Ellen White était bien établi et faisait partie intégrante de l'enseignement théologique de l'Église. Au sujet de la suppression d'écrits d'Ellen White, les adventistes du septième jour reconnurent qu'en effet, certaines parties de ses écrits n'avaient pas été reprises dans les publications ultérieures, mais pour des raisons pratiques et stylistiques plutôt que pour des raisons d'incohérence doctrinale. Uriah Smith expliqua que c'était une pratique courante pour deux raisons. Tout d'abord, la suppression de certaines informations était liée aux circonstances dans lesquelles la vision avait eu lieu et dans quel but. Les parties que l'on nous reproche d'avoir supprimées sont des choses liées à des circonstances locales et particulières, déclara Uriah Smith. L'objectif a été atteint. Cependant, tout ce qui présente un intérêt général est publié à nouveau. Deuxièmement, Smith souligna que dans certains cas, des mots et des expressions avaient été omis, mais que le sens des visions n'avait pas changé. Les visions ne contenaient rien que les adventistes ne puissent accepter, expliqua-t-il. Ainsi, pour les adventistes du septième jour, certaines parties des visions d'Ellen White n'avaient pas été supprimées pour cacher quelque chose ou modifier les croyances, mais dans le but de permettre à tous les lecteurs de comprendre les visions. Pour se justifier, ils décidèrent de publier à nouveau certains des premiers écrits d'Ellen White pour montrer qu'ils n'avaient pas l'intention de cacher quoi que ce soit. La question de la suppression était due à des raisons pratiques et non théologiques, et les responsables adventistes n'y virent pas d'objection. Pour la première fois, les adventistes du septième jour évoquèrent l'argument surnaturel pour prouver l'authenticité des visions d'Ellen White, et ils répondirent à ceux qui pensaient qu'elles n'avaient rien d'extraordinaire. Précédemment, les adventistes avaient hésité à utiliser ce type d'argument, car de nombreux fanatiques affirmaient vivre des expériences paranormales et mettaient l'accent sur leur dimension extraordinaire ou surnaturelle. Cependant, cela changea au milieu des années 1860. Les adventistes du septième jour commencèrent à affirmer que le don d'Ellen White se manifestait de façon extraordinaire. En effet, la condition physique d'Ellen White n'était pas normale quand elle était en vision. Elle avait des révélations au sujet de faits qu'elle ignorait. Elle était incapable de contrôler le moment où ces visions survenaient. En 1868, James White décrivit dans quel état se trouvait Ellen White alors qu'elle était en vision. Premièrement, elle était totalement inconsciente de tout ce qui se passait autour d'elle. Deuxièmement, elle ne respirait pas pendant toute la durée de la vision, comme cela fut démontré à plusieurs reprises en appuyant fortement sur sa poitrine et en bouchant sa bouche et ses narines. Troisièmement, Dès que la vision débutait, ses muscles devenaient rigides et ses articulations étaient bloquées au point que personne ne pouvait la faire changer de position. Quatrièmement, quand les visions prenaient fin, elle ne pouvait pas voir quoi que ce soit pendant un moment, sans pour autant que sa vue soit altérée. James White déclara aussi qu'avant 1868, elle avait déjà eu entre 100 et 200 visions, dont beaucoup de gens avaient été témoins, des croyants et des incroyants. Ainsi, ce qu'elle décrivait n'était pas un secret dont elle ne parlait qu'à quelques-uns de ses partisans. Loughborough, qui avait été personnellement témoin de beaucoup de visions d'Ellen White, raconta que lorsqu'elle était en vision, elle ne respirait pas, ses yeux étaient ouverts et elle prononçait des mots audibles sans prendre de respiration. Il ajouta qu'elle était aussi capable de prédire des choses qu'elle ne connaissait pas auparavant. Ainsi, nous n'avons aucun doute sur la source de ces visions. Les œuvres des ténèbres ont été dénoncées et mises en lumière par les témoignages, et les erreurs de l'Église ont été corrigées. C'est la caractéristique des véritables dons, conclut-il. Par ailleurs, les adventistes du septième jour soulignèrent aussi que les visions d'Ellen White n'étaient pas contrôlées par qui que ce soit. Après tout, elles survenaient de façon tout à fait inattendue, même pour Ellen White. Elle avait des visions pendant qu'elle s'adressait à des assemblées, alors qu'elle était très malade, quand elle marchait avec des amis ou quand elle priait seule. Les moments où les visions survenaient n'appartenaient qu'à Dieu. Comme le déclara Canright, Ellen White ne pouvait pas avoir une vision au moment où elle le voulait, ni éviter d'en avoir une si le moment n'était pas opportun. La dimension surnaturelle n'était pas absente des expériences d'Ellen White, même si les adventistes ne mettaient pas particulièrement l'accent sur ce sujet. C'est dans ce contexte qu'à la fin des années 1860 et au début des années 1870, les adventistes du septième jour commencèrent à présenter ouvertement leurs convictions au sujet du don d'Ellen White et à dire que le don de prophétie faisait partie de leurs croyances théologiques. En 1868, des adventistes du septième jour publièrent « The Visions of Mrs. E.G. White, A Manifestation of Spiritual Gifts According to the Scriptures » d'Uriah Smith. Ils firent cela dans le but de répondre de façon exhaustive aux objections spécifiques levées par Snook et Brinerol dans « The Visions of E.G. White, Not of God ». Le travail mené par Uriah Smith était considéré comme important et devait circuler largement parmi les adventistes du septième jour et leurs amis. Cet ouvrage fut le premier à défendre exclusivement le don d'Ellen White. De plus, l'Église confirma la croyance concernant le don d'Ellen White en publiant des déclarations officielles de la Conférence générale. Voici par exemple la résolution votée lors de la 9e Assemblée annuelle de la Conférence générale qui eut lieu en 1871. Nous réaffirmons notre confiance inébranlable dans les témoignages de Sir White pour l'Église, qui sont les enseignements de l'Esprit de Dieu. Nous avons chaque année la confirmation qu'il en est ainsi. Étonnamment, ce fut la première fois que le nom d'Ellen White était utilisé dans un tel document. D'autres résolutions officielles furent publiées les années suivantes. La situation évolua de façon significative en 1872, quand la doctrine des dons spirituels, y compris le don de prophétie, fut intégrée aux croyances doctrinales des adventistes du septième jour. Le point 16 du document intitulé « A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by the Seventh-day Adventists » était le suivant. Selon la promesse, l'Esprit de Dieu devait se manifester dans l'Église par l'intermédiaire de certains dons, énumérés notamment dans 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. Le rôle de ces dons n'est pas de supplanter ou de remplacer la Bible, qui peut nous rendre sages en vue du salut, tout comme la Bible ne peut remplacer le Saint-Esprit. En précisant les différentes façons dont il opère, l'Esprit a révélé sa propre existence et exprimé le désir de demeurer au sein du peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps, afin de lui permettre de comprendre les paroles qu'il a inspirées, de le convaincre de péché et d'opérer une transformation dans le cœur et la vie de tous. Ceux qui réfutent l'existence et l'action de l'Esprit rejettent les parties de la Bible qui définissent son œuvre et sa position. Bien que le nom d'Ellen White ne soit pas précisé, l'allusion à son don de prophétie est évidente. Ce document ne fut jamais adopté officiellement et il n'avait pas pour but d'avoir une autorité quelconque, mais ils reconnaissaient que le don de prophétie faisait partie intégrante du système de doctrine de l'Église adventiste et était l'un de ses signes distinctifs. Ainsi, les accusations relatives à la suppression de certains écrits et au manque de preuves surnaturelles concernant le don d'Ellen White n'ébranlèrent pas la confiance de l'Église dans ce don. Au contraire, elles la poussèrent à être plus ouverte et plus claire dans ce domaine. C'est en raison de ce phénomène que les adventistes du septième jour se considéraient comme le véritable peuple du reste de la fin des temps, gardant les commandements et au sein duquel se manifestait le don de prophétie. En 1872, le don de prophétie d'Ellen White faisait pleinement partie de l'identité adventiste. Conclusion. Le processus qui amena les adventistes du septième jour à accepter le don de prophétie d'Ellen White entre 1844 et 1872 nous amène à trois conclusions. Premièrement, ils se fondèrent sur la Bible et ses enseignements. Comme nous l'avons montré, à chaque étape, certaines personnes remirent en question la validité du ministère prophétique d'Ellen White. Les objections étaient sensiblement les mêmes à chaque fois, avec des nuances auxquelles l'Église dut réagir. Par conséquent, les adventistes du septième jour essayèrent d'apporter des explications à chaque objection et de citer des éléments bibliques justifiant le don de prophétie d'Ellen White. Leur argumentation s'affina donc progressivement. Ainsi, les objections n'ébranlèrent pas, mais au contraire, confortèrent la confiance de l'Église en Ellen White. Les adventistes sabbatistes reconnaissaient qu'il existait de faux prophètes, mais ils croyaient aussi que, selon la Bible, il y aurait de véritables manifestations du don de l'Esprit avant le retour du Christ. Ils pensaient que c'était le cas du don d'Ellen White. Ce qui n'était au départ qu'un signe devint une marque caractéristique du peuple de Dieu de la fin des temps, puis une doctrine distinctive de l'Église adventiste.
La deuxième conclusion que nous pouvons tirer de cette étude est que la conviction selon laquelle Ellen White exerçait le véritable don de prophétie doit être fondée non seulement sur des preuves, mais aussi sur une expérience personnelle relative à ses écrits. Les premiers adventistes avaient compris que les gens avaient besoin de temps pour étudier, comprendre et apprécier le don de prophétie tel qu'il était manifesté par Ellen White. Bien sûr, il croyait que les personnes sincères qui prendraient le temps de découvrir ses messages finiraient par constater que son don était authentique. Il est d'ailleurs remarquable que les premiers adventistes sabbatistes, y compris Ellen White, aient fait preuve de tant de patience et de tolérance vis-à-vis de ceux qui cherchaient sincèrement à découvrir la vérité à son sujet. Ils hésitaient à faire de l'acceptation du don d'Ellen White un critère d'appartenance à l'Église, même si la situation évolua progressivement, comme nous l'avons montré dans ce chapitre. Ainsi, les adventistes du septième jour d'aujourd'hui devraient se souvenir que, du fait de la nature de ce don, la démarche consistant à l'accepter ne devrait pas être basée uniquement sur des arguments intellectuels ou théologiques. Il est important de laisser du temps aux gens pour qu'ils puissent découvrir la vie et le ministère d'Ellen White grâce à ses écrits et qu'ils puissent prendre ensuite une décision réfléchie. Le don de prophétie ne peut être imposé, il doit être vécu. La troisième conclusion que l'on peut établir est l'idée que le don d'Ellen White a aidé les adventistes du septième jour à définir certains principes théologiques importants et à donner à la doctrine des dons spirituels, et au don de prophétie en particulier, la place qui leur revient dans leurs croyances fondamentales. Les débats au sujet du don de prophétie ont aidé l'Église à définir et développer des principes théologiques liés aux manifestations du don de prophétie, b. clarifier le lien entre la Bible et le rôle prophétique d'Ellen White, c. rejeter l'idée que le don d'Ellen White serait à l'origine des doctrines adventistes, et d. comprendre que le don de prophétie a une signification profonde pour le peuple de Dieu en cette période de la fin des temps. Les adventistes du septième jour sont encouragés à se rappeler que les écrits d'Ellen White ne doivent jamais être mis sur le même plan que la Bible. Après tout, une partie de son rôle consista à ramener le peuple de Dieu à la Bible. L'Église adventiste a toujours fait la distinction entre les Écritures et les dons de l'Esprit, y compris le don de prophétie d'Ellen White. En raison de sa nature, le don de prophétie d'Ellen White continue à susciter des controverses et des tensions dans et en dehors de l'Église adventiste depuis 1872.
De son côté, celle-ci doit donc continuer à clarifier, expliquer et défendre sa conviction à ce sujet. La doctrine du don de prophétie fait partie intégrante des croyances des adventistes du septième jour.